n'était pas tout à fait frais, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne, ça tourne.
Déjà ?
Quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac, pouf.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite ?
Bah là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage ?
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, c'est maintenant Caméra Subjective, votre magazine consacré au cinéma sur Radio G. Nous n'étions pas au rendez-vous la semaine passée, il y a deux semaines même, c'était les vacances, et on en a pris, on vous l'avoue. Et nous sommes heureuses de vous retrouver pour cette nouvelle édition. L'émission a, comme chaque soir, été fabriquée à plusieurs. Bonjour Véronique.
Bien le bonjour.
C'est toi qui as préparé la venue de notre invité, grâce à qui nous allons découvrir les coulisses de l'option cinéma et audiovisuel du lycée Auguste et Jean Renoir à Angers. Je n'en dis pas plus, ce sera dans quelques instants. Et bonjour Margot.
Bonjour Annie, bonjour Véronique, bonjour à toutes et tous.
Et tu as été voir un film en salle que tu nous proposes de découvrir dans ta chronique en fin d'émission.
Oui, ce soir je vous propose de parler reconversion professionnelle, nouveau sens à sa vie, effet de troupe et de solitude, ballet classique et danse contemporaine.
Eh bien j'ai hâte de découvrir ce film. Maintenant que l'équipe est au complet et le sommaire déroulé, Véronique, je te laisse présenter notre invité.
Avec grand plaisir. Bonjour Anne Loiseau.
Bonjour Véronique.
C'est un plaisir de vous recevoir en direct dans notre émission.
C'est un grand plaisir pour moi d'être là avec vous.
Merci. Vous êtes professeur de cinéma au lycée Auguste et Jean Renoir d'Angers. Et nous vous avons invité aujourd'hui car nous voulons tout savoir de ce qui se passe dans le fameux sous-sol de ce lycée, dédié à l'option cinéma et audiovisuel. Mais avant toute chose, Madame Loiseau, comment êtes-vous devenue professeur de cinéma dans un lycée? Parce que le cinéma, c'est rarement enseigné dans les lycées.
Alors, deux questions en une. C'est rarement enseigné, oui et non. Il y a quand même plusieurs établissements qui proposent cette option cinéma audiovisuel, qui est une option artistique. Il y a aussi quelques lycées qui proposent la spécialité, hein, qui sont deux choses différentes pour les lycéens, en fait, qui peuvent choisir soit l'option, soit la spécialité en fonction des offres des établissements. Et voilà. Et donc, comment on devient professeur dans ses options et ses spécialités cinéma audiovisuel? Eh bien, il faut passer une sorte de certification spécifique. Quand on est déjà enseignant d'une autre discipline, alors on peut passer cette certification qui atteste qu'on a un bon bagage culturel en histoire du cinéma, en connaissance d'esthétique du cinéma, et aussi un bagage pratique qu'on sait faire avec les élèves, qu'on a fait un petit peu avec eux, qu'on sait encadrer des projets. Voilà. Et moi, j'y suis venue parce que j'ai enseigné 14 ans en collège à Viers, en milieu rural. J'ai fait beaucoup collège au cinéma, j'ai adoré le dispositif avec les élèves. Et un jour, j'ai ouvert un atelier artistique cinéma qui était une possibilité offerte par l'Éducation nationale de travailler avec un professionnel du cinéma pour faire du cinéma avec les élèves. Et dès qu'on fait le cinéma, ben on passe dans autre chose. C'est-à-dire que là, on chope un virus et on ne voit plus les images pareilles. Et que ce soit les élèves ou les profs, on a envie de continuer. Voilà. Mmh. Et j'ai eu après l'opportunité de pouvoir postuler sur le poste du lycée Renoir à Angers.
Alors, on va peut-être pas y passer un quart d'heure, mais est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'est une option, enfin, cette histoire de spécialité, d'option, et le parcours rapidement, en fait, qu'un élève va parcourir de la seconde à la terminale?
Oui, Alors, on commence par l'option, de toute façon, puisque l'option, c'est ce qui est offert aux élèves en seconde. Voilà, tous les élèves, on peut leur proposer de faire l'option ou pas. Cela dit, ce n'est pas si simple pour accéder à cette option cinéma audiovisuel au lycée Renoir, puisqu'il faut être un élève du secteur pour le moment. Mais après, à l'issue de cette année d'option, les élèves choisissent soit d'arrêter, soit de continuer encore en option, 3 heures par semaine, soit de choisir la grosse dose de cinéma, hein, la dose qui va leur compter pour le bac, qui passeront au bac, qui est la spécialité. Voilà, et donc ils choisissent entre les deux, et ça n'a pas les mêmes implications, hein, c'est pas les mêmes programmes, c'est pas les mêmes contenus, et on leur propose ces deux choses-là. Voilà. Et en première spécialité, en fait, on peut recruter des élèves qui viennent d'ailleurs et qui voudraient suivre cette spécialité. Si on a des places, parce qu'on n'a pas beaucoup de places à cause du matériel, à cause de l'encadrement, de beaucoup de raisons. Voilà. Mais voilà, on a quand même de la place, quoi.
Alors avant d'entrer dans le vif de ce qui se passe dans toutes ces années de formation, comment les élèves arrivent à vous ? Est-ce que vous devez aller les chercher ? Vous disiez qu'il n'y a pas beaucoup de place. Est-ce que la sélection est-elle rude ? Enfin voilà, comment ça se passe pour arriver jusque-là ?
Alors, on a la chance à Angers d'être déjà bien ancré dans le paysage de l'offre artistique en lycée, hein, et que les gens savent qu'à Renoir, il y a du cinéma. Donc, on bénéficie pour ça du travail formidable de nos prédécesseurs, à savoir Louis Mathieu notamment, Claude Dufetel, hein, qui sont parmi les enseignants qui ont vraiment marqué la section. Le travail formidable aussi de notre assistante technique, Laurent Girard, qui est là depuis longtemps et qui est un énorme pilier, qui connaît bien les élèves, qui connaît bien les partenaires, qui est très dynamique et hyper compétente. Donc tout ça fait qu'on a une force, un petit peu, comment dire, de roulement, qui fait qu'on n'a pas tellement à aller chercher les élèves. Hein. Voilà, on a un site internet, voilà. Mais il ne faut quand même jamais s'endormir et bien signaler qu'on existe, parce qu'on peut toucher des élèves, voilà, on peut permettre à des élèves de révéler quelque chose en eux pour leur parcours, pour leur orientation, et ça, c'est vraiment ce qu'on aime faire, quoi.
Est-ce qu'ils ont besoin d'un bagage spécifique comme ils arrivent pour postuler dans la spécialité ?
Alors, non, rien. Être très motivé, voilà. Et très motivé, ça veut dire quand même accepter de donner de son temps, être curieux, d'aimer travailler en équipe, d'aimer travailler avec les autres, d'aimer se questionner. Enfin, voilà, tout ce qui va avec la dimension artistique et qui associe à la fois le voir, une curiosité pour voir des images, des nouvelles images, sortir de ce qu'on regarde sur Netflix ou sur son smartphone, quoi, hein, et puis une capacité à vouloir faire, à essayer de faire des images, de prendre des sons, de les monter, voilà. Il faut associer ces deux-là. Donc c'est un peu ça qu'on demande aux élèves.
Et là, donc, vous parlez un peu des attentes, de ce que vous cherchez dans les élèves. Et eux, quand ils arrivent, est-ce qu'ils ont des attentes particulières ? Est-ce qu'ils veulent faire des films, voir des films ? Enfin, ils arrivent dans un moule un peu, peut-être, que vous pouvez dépeindre ?
Oui, alors ils arrivent souvent avec des étoiles dans les yeux, avec... Oui, une idée du cinéma qui est très liée au cinéma américain qui voit et qui aux stars un peu à tout ça, c'est un peu vrai ça, hein. Ils rentrent beaucoup par le blockbuster en fait, voilà. Et c'est tout à fait respectable, il y a aucun souci avec ça. On en a quelques-uns qui par leur famille ont reçu une autre culture et qui ont très très envie de la creuser, voilà. Et on fait avec ça, et notre idée, c'est de les garder très, très ouverts, hein, et de leur proposer de voir des choses très différentes de ce qu'ils peuvent voir, et d'apprendre à les apprécier, pas simplement de les subir, de les comprendre et peut-être de les apprécier. Et on a souvent des petits miracles. Enfin, je veux dire...
Alors, on veut des exemples.
Par exemple, un auteur qui n'est pas facile à passer, c'est Éric Rohmer.
Voilà, oui, bien sûr,
donc,
ouais.
Dans lesquels les dialogues comptent beaucoup, c'est un peu théâtral, le temps est long, hein, il faut les écouter avec patience. Et bien des fois, bon, alors, beaucoup d'élèves pour lesquels c'est difficile, mais certains vont se prendre de passion, hein, et vont découvrir des films, et au point qu'en terminale, quand ils vont faire leur film de bac, ils vont avoir dans l'idée un extrait d'un film de Rohmer, et voilà. Mmh. Et puis, alors je donne un exemple, un autre, parce que je le trouve génial. Quand j'étais enseignante à Vier, c'est pas moi, c'est un collègue qui a travaillé sur un film de Rohmer, je sais pas si vous voyez lequel, Perceval le Gallois, qui est quand même une adaptation de Chrétien de Troyes, hein, de
la langue, ouais,
du XIIe siècle, voilà, par Éric Rohmer, dans un décor pas possible et tout. Bon, il y a une élève de l'époque qui a trouvé ça incroyable, hein. Et bien cette élève que j'ai eue moi après et tout, avec qui on a pas mal parlé de cinéma, mais qui n'est pas passée par Renoir, elle a fait une classe préparatoire à Rennes où s'enseigne encore le cinéma, parce qu'on peut poursuivre le cinéma en classe préparatoire pour le présenter à Normal Sup. Donc cette élève, elle a fait cette formation-là, et après, elle a bifurqué à l'université en master, et elle a fait son master sur Perceval le Gallois.
Waouh.
Voilà. Et aujourd'hui, elle enseigne le français et le cinéma.
Ah.
Voilà.
Uh-huh. Une future prof au lycée Renoir, alors
Ben, elle est affectée en banlieue, et puis, bon, on ne sait pas.
On verra.
On verra ce que l'avenir réserve.
Alors, c'est vrai qu'un des axes de ce parcours d'option, c'est de voir des films, donc on a déjà commencé à en parler. Qui choisit les films que vous étudiez? Est-ce que c'est national? Est-ce que c'est le lycée? Est-ce que les élèves peuvent choisir les films?
Alors ça, c'est une très très bonne question. On essaye pas mal de partir de leur culture à eux, hein, de partir de ce qu'ils regardent aussi. Et nous, on a c'est là où c'est formidable d'enseigner le cinéma, on a une grande liberté pédagogique, donc on peut travailler sur tout ce qui se présente. C'est pour ça que, par exemple, on travaille beaucoup avec Premier Plan, hein, on s'adosse à tout ce que propose Premier Plan, à ce que proposent les 400 coups avec qui nous sommes partenaires. Et donc, en fait, on rebondit sans arrêt. Voilà. Moi, je choisis les extraits que je veux pour mes films, pour mes cours, je veux dire, le lapsus, et on peut utiliser le dispositif lycéen au cinéma. En fait, c'est très très ouvert, hein. On a un programme qui est très solide, mais qu'on peut nourrir avec les extraits qu'on veut. Cela dit, il y a une petite limitation à ça, c'est qu'en terminale, il y a un programme très précis de films en spécialité, hein.
Ouais.
Il y a un programme très précis de films à étudier en très peu de temps d'ailleurs,
par exemple,
qui est fixé au niveau national.
Alors, ceux de cette année, par exemple?
Alors, cette année, c'est Ready Player One de Spielberg, ouais. Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda et Le secret derrière la porte de Fritz Lang, qui sont des films exigeants, difficiles, hein, mais qui permettent, ces trois films sont très différents, d'aborder plein de questions de cinéma différentes et d'histoire du cinéma différentes.
Et voilà. Comment ils sont interrogés sur les films, les élèves?
Alors, à l'écrit. Ils ont un écrit de 3h30, hein, avec une analyse de séquence de l'un des trois films qui tombent. Plus, on leur propose de réécrire la séquence, donc de faire une note d'intention de réécriture de cette séquence, qui demande un petit peu de travail de préparation dans l'esprit de ce que font les écoles de cinéma, en fait. Hein,
je pense que j'allais vous dire, ça ressemble beaucoup au concours d'entrée de la FEMIS.
Voilà, exactement, ça a été un petit peu fait dans cet esprit-là. Ça, c'est l'écrit, puis après, il y a un oral de cinéma où là, ils présentent leur propre film, parce qu'en parallèle, on leur demande de proposer une réalisation, de montrer ce qu'ils sont capables de faire et quelles intentions ils peuvent avoir en termes d'image et de son. Quoi.
Alors la richesse, c'est que tout ce parcours où ils voient des films, il y a un deuxième volet, c'est faire des films.
Mm-hmm.
Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu de ce programme d'exercice, de réalisation
Alors c'est là où aussi on a une très grande liberté. on peut décliner les enjeux des programmes avec des projets de films qui sont très 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 variés. Et donc ça peut aller, par exemple en seconde, on travaille le suédage, hein, qu'on trouve un super exercice. Suéder, ça veut dire refaire à la manière d'un réalisateur une scène, une séquence, avec les moyens du bord. Donc ça, nous, on aime beaucoup. On est en train de travailler là avec les secondes sur leur suédage des bronzés fonds du ski, enfin voilà.
Ouais, ouais.
Et donc ça donne des choses super, et en même temps c'est exigeant, donc c'est un très bon exercice pour apprendre. Et puis plus les années passent et plus on leur demande d'écrire des scénarios, de construire des petits films, par exemple. Je sais pas ce que je pourrais vous donner comme exemple, mais là, par exemple, avec les premières optionnelles, cet après-midi, on travaillait sur un projet de lien entre le cinéma et les jeux vidéo, où on imagine un personnage en caméra subjective. En fait, on va utiliser le principe de la caméra subjective pour être comme dans un jeu vidéo. Voilà. Donc, on a travaillé avec les élèves un scénario et on va le tourner, et voilà.
Vous avez aussi, on a récupéré un son qu'ont fait des élèves.
Ouais.
Il s'agit d'une fiction sonore, donc je vous propose de l'écouter et puis après vous nous expliquez comment ça s'est
Tout
mis
à
en
fait.
Place.
Un exercice de première spécialité.
Mmh. Ok.
Omata Kayesol. Takaiba Nakati. Sakazizi.
Réveille-toi, Forest, tu vas être en retard.
Songe sauvage, une fiction sonore réalisée par
Lucie Belin, Maëlle Delajarte, Kenza Wakrim et Valentin Bouvet.
Remerciements à Monsieur Derouet et Laurent Girard. Copyright Renoir 2016.
Merci beaucoup pour cette proposition de fiction sonore qui a été envoyée par cette Laurence Girard, qui est donc le couteau suisse de la section ciné-audio.
Ouais,
donc je la remercie. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est, donc, enfin le travail qui a été fait derrière, puisque là on est vraiment sur un travail sonore.
Oui,
exclusif.
Voilà. Alors ça c'est un exercice qu'on demande en première spécialité quand on travaille le son, c'est-à-dire qu'en cours on va travailler l'histoire du son, l'histoire technique aussi de la prise de son, voilà. Et on va leur demander de créer un projet uniquement au son. Donc voilà, c'est ce projet-là. Et ils sont assez libres. Là, c'est un projet, on leur demande d'écrire une petite histoire, un scénario, et qui doit tenir dans un temps limité. Ici, je crois que c'est un peu plus d'une minute. Et donc, ben, y a tout un travail d'écriture. Hein. Il faut qu'ils se mettent d'accord en groupe. Et puis, ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, d'enregistrer la voix et de créer tous les sons. On leur interdit d'aller chercher les sons sur Internet pour cet exercice-là. Donc, il faut apprendre à bruiter et à prendre le son, à le monter. Là, ça est monté sur un logiciel de montage normal. Voilà. Et puis, ils rendent ça, cet exercice-là, en fin de projet.
Et puis, j'imagine que pour eux, le Graal, ça va être de réaliser des films.
Voilà.
Que ça doit être une grosse partie des projets de réalisation.
Oui.
Tous les ans, ils font un film ?
Alors, plusieurs. Plusieurs films, voilà. Donc on fonctionne beaucoup par petits projets de, par exemple, 3-4 minutes. Déjà, c'est beaucoup. On passe d'un projet à un autre. Là, c'était juste sonore, mais ça peut être par exemple, on travaille sur la gestion du savoir du spectateur. Donc on va demander à des élèves d'imaginer une petite histoire dans laquelle, par moment, le spectateur en sait plus que certains personnages. Donc du coup, ça nous permet d'observer dans les films, comme en fait Hitchcock, par exemple,
pour ne pas le citer.
Ouais, voilà. Hein. Que le spectateur en sache plus que certains personnages et du coup ait très peur pour eux. Voilà, on observe dans les films comment ça marche et les élèves, on leur demande eux d'imaginer une petite histoire qui va travailler cette question-là.
Ah,
voilà.
Oui.
Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres de ce qu'on peut demander aux élèves de faire.
Est-ce que, du coup, les élèves ont chacun un poste à la FEMIS, par exemple, pour ne pas la citer, enfin, dans les grandes écoles de cinéma, les élèves sont en réalisation, en scénario. Mm-hmm. Est-ce que c'est pareil à Renoir ?
Alors ça, c'est une très bonne question. Nous, notre but, c'est que les élèves passent par tous les postes au cours de leur parcours avec eux. Alors, ce qui est formidable dans cette section, c'est qu'on les a, souvent en seconde, ils n'arrêtent pas, ils continuent. Donc, en fait, ce sont des élèves qu'on a sur 3 années. Ça nous permet vraiment d'abord de bien les connaître et de les accompagner dans leur réflexion sur la place pour eux du cinéma, de l'audiovisuel, des images, et puis aussi la place dans les projets. Hein. Est-ce qu'ils sont plutôt faits pour les produire, pour les faire, pour les accompagner, ou pour être à l'image, ou pour être au son ? Donc, il faut qu'ils passent un peu partout. Et donc, en fonction des projets, on essaye déjà que ça tourne, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui fassent les mêmes choses, et voilà.
Alors moi, justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, vous parliez d'évolution. J'avais juste une question, enfin, deux questions, en fait. La première, c'était, est-ce que vous avez l'impression, en tant qu'enseignant depuis plusieurs années, qu'il y a une évolution, en fait, dans la culture cinématographique de vos élèves, avec peut-être notamment, d'un côté, le poids grandissant de Netflix, et donc d'automatisme, d'esthétisme, parce que les séries Netflix sont quand même produites avec un certain nombre de... il y a un certain nombre de clichés, maintenant, on pourrait presque dire esthétiques. Est-ce que vous voyez l'arrivée de cette plateforme dans la culture cinéphilique, cinématographique de vos élèves ? Et par ailleurs, Est-ce que vous voyez une sorte d'évolution dans leur... Enfin, assurément, vous voyez une sorte d'évolution dans leur regard sur ces 3 ans. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler donc, de cette double évolution, en fait ?
Alors, c'est clair qu'on ne peut pas faire sans Netflix. Moi non plus, je ne fais pas sans. C'est-à-dire, et c'est absolument pas un problème, en fait. Je m'appuie beaucoup pour... parce qu'en fait, beaucoup d'élèves ont Netflix. Donc, c'est un point de départ, souvent. On dit, vous avez vu ça sur Netflix, bon, voilà. Et donc ça, oui. Hein, et des automatismes, j'ai presque envie de dire oui. Je me souviens d'élèves, l'année dernière, de terminale, qui avaient voulu faire un film autour du b-roll, comme moi je connaissais même pas l'expression, quoi.
Moi non plus, je veux bien qu'on me l'explique.
Voilà, ben c'est une manière de filmer avec qui est très commercial. Ah. Je trouve qu'on peut voir dans beaucoup de clips, en fait, de musique ou dans des publicités, en fait. C'est une manière d'accélérer l'image, de la ralentir, de créer comme ça une espèce de sensations physiques avec les images, de se repaître de l'image aussi, enfin voilà. Et c'est assez technique comme geste. Hein. Donc, pourquoi pas, hein. Donc les élèves ont fait un film où presque tout l'enjeu, c'était pas tellement le scénario, hein, c'était d'éprouver de ce plaisir à la caméra qu'on retrouvait dans les clips et dans cette esthétique très moderne, voilà. Donc ça nous a permis d'interroger ça, par exemple. Hein. Et puis de se dire aussi qu'on n'était pas tous d'accord sur... Mais c'est pas grave. Hein. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, ce sont des élèves qui continuent en BTS audiovisuel, hein, et qui seront en images. Et en fait, ils se sont nourris de ça, ils l'ont éprouvé et ils vont continuer. Donc voilà.
Alors, je vois que le temps passe. Je vais aussi vous interroger sur la place que vous donnez aux rencontres avec les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel dans ce parcours.
Très importante, cette place. Donc, c'est sûr qu'on n'existerait pas sans toutes ces rencontres qu'on fait. C'est extrêmement important pour nous. Ça nourrit à la fois les désirs de voir des élèves des choses qu'ils ne connaissent pas, mais aussi de rencontrer des gens qui font le cinéma. Hein, c'est... de découvrir des visions du monde de certains artistes. Enfin, toutes les rencontres sont extrêmement importantes et souvent décisives, enfin, permettent aux élèves de grandir. Hein. Et ça, c'est... Donc, pour nous, c'est très régulier, c'est très fréquent. Et on remercie tous les partenaires qui nous permettent régulièrement ces rencontres. Voilà, les 400 coups, Premier Plan, les festivals, Cinéma d'Afrique, tous les partenaires angevins qui travaillent avec nous, qui sont formidables.
Et une question un peu plus ouverte, c'est que deviennent... Est-ce que vous suivez un petit peu vos élèves à la sortie, ou en tout cas, vous avez des nouvelles ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ?
Qu'ils deviennent ?
Et je sais... Enfin, et aussi, racontez-nous comment les anciens élèves qui sont partis vers le cinéma reviennent nourrir le regard des actuels.
Ça, c'est génial. Alors ça aussi, on le doit aussi beaucoup à Laurence, hein, qui anime cette flamme du réseau des anciens élèves. Ils sont plus de 500 aujourd'hui. On a un groupe Facebook. Enfin, moi, c'est pas moi qui le gère. Hein. Tout ça, c'est Laurence. Et en même temps, elle est en contact régulier et on les sollicite tous les ans pour revenir dans une journée un petit peu de rencontre avec les anciens, et on en a tous les ans qui reviennent, qui nous font ce grand plaisir, qui sont déjà au travail ou qui sont en cours d'études, mais c'est très vivant et ils aiment bien revenir transmettre leur flamme là, hein, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils font, leur métier, quoi. Voilà.
Et ceux qui ne choisissent pas l'orientation au cinéma audiovisuel,
ils reviennent aussi.
Ils reviennent aussi.
Oui, bien sûr. Oui, on a des médecins, on a des gens qui travaillent dans des domaines très variés qui reviennent avec plaisir nous dire ce qu'ils font.
On a toujours dit que pour être médecin, il fallait une bonne formation initiale en humanité. Hein, le cinéma en fait partie.
Exactement. Non, c'est super. Bon. On a des ingénieurs.
Merci beaucoup pour ce temps d'échange, pour ce temps de partage. Nous allons poursuivre notre émission et je donne la parole à Annelie.
Au titre musical, vous devinerez ce que c'est. C'était Atomic de Sleeper and Rapino Brothers, tiré de la BO mythique du film Trainspotting de Danny Boyle, sorti en 1996.
Film non moins mythique. C'est peu de dire que ce morceau a bercé mon adolescence. Excellent choix, Anne-Li, merci beaucoup.
Sans savoir,
mais tu as mis la flamme dans ce studio, c'est parfait pour continuer l'émission.
Très heureuse qu'il t'ait réjoui. Vous écoutez toujours Caméra Subjective, le magazine cinéma de Radio G. La fréquence, c'est le 101.5 FM. Et on continue avec l'agenda ciné de la semaine. Et Margot, on prend le large cette semaine.
Eh bien oui, comme chaque année, à l'approche de mai, le milieu du cinéma bruisse et s'enflamme. Le Festival de Cannes approche. Alors je ne sais pas si les élèves de l'option cinéma et de la spécialité cinéma de Jean Renoir vont au festival, mais ce que je sais, c'est que Cannes n'est pas en Pays de la Loire et que pour cette semaine, eh bien, l'agenda cinéma voit loin, bien au-delà des frontières de notre région. Alors j'ai commencé en disant comme chaque année, mais en fait ça faisait 2 ans, Covid oblige, que le festival n'avait pas eu lieu normalement. Après une édition plus ou moins annulée en 2020, celle de l'an dernier s'est tenue en juillet, ce qui est vraiment so shocking pour les festivaliers. Retour à la normale en 2022, le festival se tiendra du 17 au 28 mai, business as usual. Et depuis que la sélection et la composition du jury ont été annoncées, la question principale c'est: fera-t-il beau sur la croisette pendant cette quinzaine? Et là, je rigole seulement à peine, parce que pour avoir fait plusieurs fois ma valise pour la croisette...
La classe.
C'est une vraie question. Faut-il prendre les bottes ou est-ce que les escarpins suffiront? Donc, blague à part, arrêtons-nous quelques minutes sur la sélection officielle qui a été annoncée la semaine dernière. Une 50aine de films entre la compétition et la sélection Un certain regard, ainsi que toutes les séances spéciales, et il y en a de plus en plus d'année en année. On aime bien répéter que tous les ans, ce sont les mêmes noms qui reviennent. Eh bien, c'est encore vrai cette année. N'empêche que je défie quiconque de ne pas être excité à l'idée de découvrir bientôt dans les salles les nouveaux films de David Cronenberg, Claire Denis, James Gray, Kelly Richard, Kore-eda Hirokazu ou Ruben Östlund, pour ne citer qu'eux, qui sont tous en compétition pour la Palme. Sans oublier Quentin Dupieux, Nicolas Bedos, Baz Luhrmann ou Patricio Guzman. Dans les sélections parallèles, cherchez l'intrus. Mais la vedette sur la croisette cette année, ce sera incontestablement Tom Cruise qui viendra présenter en avant-première Top Gun Maverick, plus de 30 ans après l'opus original. Ça aussi, c'est ma jeunesse. Au vu de la bande-annonce, la star n'a pas pris beaucoup de rides. Merci qui ? J'ajoute en passant que la parité ne sera pas toujours encore à l'honneur cette année sur le tapis rouge, parce que je n'ai noté que 5 réalisatrices pour 21 films en compétition. En revanche, la parité est bien respectée dans la composition du jury. 4 actrices entourent 4 réalisateurs. Cherchez le cliché. De façon intéressante, le jury fait la part belle cette année aux comédiens et comédiennes, puisque le président n'est autre que Vincent Lindon, entouré donc des actrices Noomi Rapace, Jasmine Trinca, Rebecca Hall et Deepika Padukone. Alors moi, je suis curieuse de voir de quelle manière, éventuellement, leur profession va pouvoir influencer, ou pas d'ailleurs, sur le palmarès. Et bon, dans un souci d'exhaustivité, je vais aussi citer les noms des 4 réalisateurs jurés. Joachim Trier, Ladj Ly, Asghar Farhadi et Jeff Nichols. Bon, que du beau monde. Donc pour finir, une petite info probablement inutile, mais je l'ai quand même notée. Un autre point commun dans ce jury, c'est l'âge des jurés. Hormis le président, ils sont tous quarantenaires. Jeunes, mais pas trop.
Merci Margot pour cet avant-goût de la croisette. J'ai presque l'impression d'y être. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et maintenant, le dernier rendez-vous de l'émission, c'est ta chronique cinéma.
Alors, je reviens à nouveau donc pour la chronique maintenant. Et j'ai choisi de vous parler ce soir d'un film qui est sorti le 30 mars au cinéma. C'est-à-dire il y a presque un mois, ce qui est juste une éternité en termes d'exploitation cinématographique. Donc ça déjà, c'est une gageure et probablement l'indice d'un film savoureux et familial, dont le succès ne s'explique pas uniquement par son genre, la comédie. Il s'agit du film Encore, en deux mots donc, réalisé par Cédric Clapiche. Je ne vous apprendrai probablement pas que l'intrigue se déroule dans le milieu de la danse, et on commence par écouter un extrait de sa bande-annonce.
Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui. De repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien.
Si tu construis ta vie sur ton corps à 35 ans, t'es à la retraite. T'es obligé d'avoir au moins deux vies.
Sabrina m'a proposé un job avec son mec.
Et donc tu vas complètement laisser tomber la danse. Faut y croire. Hein, faut t'accrocher.
Alors dans ces quelques 30 secondes, tout est dit ou presque. D'un côté, t'es obligé d'avoir au moins deux vies, ça c'est le père, et il faut y croire, il faut s'accrocher, ça c'est le kiné. Là se dessine le projet du film, suivre le parcours d'Élise, des abîmes à la lumière. Élise est une danseuse étoile. On la découvre au début du film, quelques minutes avant qu'elle n'entre sur la scène de l'opéra pour la première d'un ballet. Dès la séquence d'ouverture, tout en tension et en variation de rythme, ce qui intéresse le réalisateur, ce sont les coulisses. Que se passe-t-il derrière le lourd rideau rouge ? Que se cache-t-il dans l'ombre d'un spectacle donné sur une scène inondée de lumière ? Quelle pensée intime dissimule une danseuse pendant une représentation ? Comment se crée l'illusion de cette beauté ? À la fin du spectacle, Élise chute et se blesse gravement à la cheville. Le médecin est réservé sur sa capacité à danser à nouveau à haut niveau. Le film va donc nous donner à voir comment ce personnage va devoir se relever, au sens propre comme métaphorique, se repenser et sortir du scénario d'une carrière toute tracée et des rêves qui y sont associés. Qu'est-ce que c'est qu'une deuxième vie quand on a l'impression de ne pas avoir fini de vivre la première ? Le personnage va s'efforcer de trouver un chemin entre deux idées a priori contradictoires. S'accrocher, continuer, ou bien passer à autre chose, se réinventer. Cette synthèse trouve sa solution dans la danse. Et l'une des plus belles réussites du film, ce sont justement ces séquences de danse. D'abord classiques, puis contemporaines, quand Élise découvre la compagnie du chorégraphe israélien Ofeh Schechter. Car pour se reconstruire, Élise s'est mise au vert et a pris la route de la Bretagne avec une amie et son compagnon Cuisto. C'est un couple aussi explosif que sympathique, qui apporte fraîcheur et humour au film. Et pendant qu'Élise est au fourneau, des danseurs débarquent dans sa Bretagne cocon. Et la voilà qui doit à nouveau sortir de ses projets, être bousculée dans ses certitudes. Alors Cédric Clapiche ne s'en cache pas, il aime la danse. Art auquel il avait déjà consacré un documentaire en 2010 et qui apparaît de loin en loin dans nombre de ses réalisations. Dans « Encore », la danse est au premier plan, avec une réflexion à la fois sur la lumière, les gestes filmés, du détail au plan d'ensemble, l'individu et le collectif, et on sait combien Clapiche aime composer des troupes et des tribus de cinéma, et bien sûr, le corps.
Pour moi, quand on fait un film sur la danse, il est impératif que ceux qui jouent dansent aussi. Si on veut raconter la danse, on doit partir du corps des danseurs. Les gens qui jouent les scènes doivent être ceux qui répètent ou qui dansent.
C'est donc une danseuse de la troupe de l'Opéra de Paris, Marion Barbeau, et un danseur chorégraphe, Ofeh Schechter, dans son propre rôle, qui tiennent les deux rôles principaux dans le film. Et à travers le passage du classique au contemporain, le film s'intéresse de façon passionnante à un art sans cesse en renouvellement et en recréation, à l'image de ce que doit accomplir le personnage d'Élise. Loin d'opposer les deux pratiques, Encore fait le choix de nous montrer leurs liens et leur complémentarité, notamment ce qui concerne le rapport au corps. Car si le classique vise le rêve et l'idéal, la perfection presque, les chorégraphies contemporaines, plus terriennes et organiques, s'intéressent aux failles et se nourrissent des imperfections humaines. Le film fait aussi se répondre ces deux approches en s'ouvrant sur une représentation d'un ballet classique et en terminant par un spectacle de danse contemporaine. Parler de danse et de corps en mouvement est finalement aussi une façon pour le cinéaste de rendre hommage à son art, dit le septième, dont l'enjeu principal est justement de filmer les corps en mouvement. Cette réflexion se retrouve dès le magnifique générique début du film. Après une déambulation entre des corps immobiles de danseuses, le titre du film s'inscrit dans la foulée d'Élise, filmée au ralenti pour décomposer son mouvement. Voici une référence explicite à la chronophotographie, ancêtre du cinéma, dont l'objectif était de parvenir à rendre visible l'invisible, c'est-à-dire le mouvement trop rapide pour l'œil humain. Dans cette perspective, le film de Clapiche nous donne à découvrir ce qui est ordinairement caché aux yeux des spectateurs de danse, les coulisses de la beauté.
Encore, de Cédric Clapiche, est encore à l'affiche. Vous pouvez le voir à Angers, au Pâté ou au 400 coups, ainsi qu'à Cholet ou Saint-Macaire-en-Mauges. Merci Margot pour ce conseil ciné. C'est la fin de Caméra Subjective, mais on se retrouve dans 2 semaines. Cette fois, on sera bien au rendez-vous. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez réécouter toute l'émission ainsi que toutes les précédentes sur le site de Radio G à la page de Caméra Subjective. Et vous y trouverez également toutes les infos et références des sujets dont on a parlé ce soir. Le lien vers le site de la section ciné-audio du lycée Renoir, par exemple. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, à partager vos réactions. Vous pouvez aussi nous écrire, toujours via cette page. A-t-on d'autres choses à se dire avant de se dire au revoir et à dans 2 semaines ? À dans 2 semaines.
Je
vois que personne n'a de message important et primordial. On a hâte de vous retrouver. Voyez des bons films. Passez une bonne soirée.